je crois, pour la plupart des victimes de tous les aspects de ce dossier, à l'hypercachère, à Charlie Hebdo, à Montrouge, je crois que le sentiment qui s'érige, c'est celui d'avoir été entendu. Je crois que le sentiment qui sort de cette salle de cour d'assises, c'est celui de la justice enfin rendue.
Verdict rendu il y a un an. 14 accusés condamnés à des peines allant de 4 années de prison à la réclusion à perpétuité. Les attentats du 7 janvier 2015 devant la justice. La tuerie de Charlie, le meurtre d'une policière, le massacre de l'hypercachère. Eh bien, le dossier n'est pas complètement refermé. Deux appels sont en cours. Pourtant, il fallait clore ces mois d'audience enregistrés et filmés pour l'histoire. Il fallait bien avoir le mot de la fin. L'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, a fait le choix rare de publier sa plaidoirie. Voici le texte original, ce qu'il a dit devant la cour d'assises spéciale de Paris un 4 décembre 2020. La mort de ses amis, la survivance de Charlie, le droit d'emmerder Dieu qui n'a besoin ni d'assassin ni d'hypocrite pour se défendre. Le droit de dire, le droit d'écrire, le droit de dessiner, le droit de publier, le droit de vivre, ces mots de la fin à lui.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Richard Malka.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans l'instant M, le droit d'emmerder Dieu, tout petit livre qui vient de paraître chez Grasset, tout petit livre et pourtant un petit peu plus long que la plaidoirie que vous avez pour de vrai tenue devant cette cour d'assises. Vous l'aviez légèrement raccourci, c'est cela ?
Oui, parce que quand on est en situation, on s'adapte toujours et puis selon l'inspiration, selon le ressenti, on rallonge, on raccourcit. Et là, effectivement, j'ai pensé à un moment qu'il fallait un peu raccourcir, un peu...
C'est dire aller... à quel point une plaidoirie, c'est l'oralité.
Ah oui,
c'est ça
sûr.
Toute la tradition de la plaidoirie dans votre métier maître. Qui publie sa plaidoirie ?
Alors c'est effectivement assez rare, normalement c'est une parole éphémère.
Absolument.
Qui s'évapore,
c'est ça.
Et c'est la beauté de cet exercice-là,
c'est ça.
Que ce soit...
Même Georges Kiechmann, j'ai regardé votre mentor, n'a jamais publié ses plaidoiries.
Alors après, là il y a un sujet et un propos particulier, je ne défends pas une personne, je défends une cause, c'est un débat de société. D'un événement tragique qui est devenu historique. Et en fait, le fait de publier ce livre, ce que mon éditeur m'a demandé dès le lendemain, c'est une manière de d'abord de prolonger l'hommage à Charlie. Et puis c'est surtout une manière de continuer le combat. Et c'est ça que j'ai voulu faire.
Et en même temps, vous dites, Charlie, c'est un procès pour l'histoire, bien entendu. Mais je ne vais pas plaider pour l'histoire. Je ne plaiderai ni pour demain, ni pour après-demain, ni pour l'avenir. Je plaiderai pour maintenant.
Oui, parce qu'on n'arrêtait pas...
Hic et nunc.
Pardon ?
Hic et nunc.
C'est-à-dire que on n'arrêtait pas depuis le début du procès de dire c'est un procès pour l'histoire, c'est un procès pour l'histoire. Alors moi, ça, c'était vrai, mais ça me mettait un peu à l'aise parce que moi, c'était aux personnes vraiment d'aujourd'hui que je voulais m'adresser. C'est aujourd'hui que le combat se passe. Mmh. C'est aujourd'hui qu'on perd ou qu'on gagne. C'est aujourd'hui qu'on crée la société dans laquelle nos enfants vont vivre. Et donc, je sentais une espèce de déresponsabilisation dans l'idée que nous étions là pour l'histoire. Donc il fallait un peu poser. Et j'ai commencé, mais c'est aussi une manière d'accrocher la cour et puis les personnes présentes par leur dire, moi j'en ai rien à faire de l'histoire, c'est à vous que je m'adresse. C'est une manière de mettre en face de nos responsabilités collectives.
Et autre paradoxe, maître, vous le dites et vous commencez comme ça, une cour d'assises n'est pas faite pour défendre des idées.
Oui. Alors là, c'était la difficulté de mon positionnement.
L'immense difficulté de votre positionnement.
Mon positionnement était de toute façon très complexe, vu mon histoire, ce que j'étais, la proximité que j'avais avec les personnes de Charlie. Honnêtement, je savais pas quelle position j'avais en rentrant dans cette salle d'audience. Il y avait mes amis, il y avait les parents de mes amis. Je n'ai pas la distance que j'ai allé dans d'autres procès. Mm-hmm. Mais il fallait que je sois avocat. Et ça, c'est
avocat de la partie civile.
Avocat de la partie civile, mais d'une partie civile très particulière, qui n'était pas une personne physique, qui était une personne morale, qui était la société éditrice de Charlie Hebdo. Mm. Et donc, je me sentais investi, et pour être honnête, c'est ce qui m'intéressait, du symbole. C'est-à-dire de la liberté d'expression.
Mmh. On va se replonger dans l'histoire, pour le coup, parce que l'histoire, vous ne vous y adressez pas pour la suite, mais vous remontez le temps et vous rappelez les faits. L'assassinat de Theo van Gogh à Amsterdam.
L'assassinat de l'intolérance aux Pays-Bas. Hier matin, l'arrière-petit-neveu du peintre Vincent van Gogh, Theo van Gogh, réalisateur de cinéma, a été assassiné à Amsterdam. C'est la liberté d'expression qui est visée pour beaucoup de Néerlandais ce matin. Theo van Gogh aurait été tué pour un film sur l'islam, Pierre Benazet.
À 47 ans, Theo van Gogh possédait une notoriété certaine, due moins à ses films qu'à ses provocations répétées sur les plateaux de télévision. Considérant l'islam comme une force rétrograde, il s'était signalé aussi bien par ses propos insultants envers les musulmans, les juifs que les chrétiens.
Nous étions en 2004, Richard Malka, et vous prenez le temps de reclouter chaque étape qui a mené petit à petit, d'abord à ce qu'on a appelé le procès des caricatures et ensuite à cette tuerie. Vous prenez le temps parce que vous dites qu'il y a là-dedans un événement majeur qui a été souvent oublié.
Une matrice de ce qui s'est passé par la suite, et c'est vraiment le point de départ. En 2004, à Amsterdam, Theo van Gogh est donc assassiné dans une rue. Il est quasiment égorgé jusqu'à être décapité par un jeune Marocain de la tendance takfiriste. Et ensuite, il est poignardé. Et sur le poignard, on retrouve deux menaces. L'une pour Ayaan Hirsi Ali, qui était sa co-réalisatrice du film Submission, qui dénonçait la soumission des femmes dans l'islam. La deuxième... Bon, donc ça, on comprend cette menace-là. Et la deuxième menace, c'est pour les Juifs, qui n'avaient vraiment rien à voir avec cette histoire-là. Et donc, on a la matrice de ce qui s'est passé ensuite en 2015, la liberté d'expression et les Juifs. Et on retrouve ce parallèle assez fréquemment dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai pas été au bout de cette question sur pourquoi c'est souvent associé, dès 1791, avec l'abolition du blasphème et le décret sur l'égalité pour les Juifs. Et on retrouve ce parallèle constamment. Mais donc, en 2004,
vous
comment
revenez,
cette histoire
c'est ça, sur voilà. la peur. Sur la peur qui s'installe petit à petit après cet assassinat.
Oui, parce
vous
que ça va tout changer,
voilà,
en fait.
Vous racontez comment un écrivain danois veut simplement raconter la vie de Mahomet et voudrait la faire illustrer. Vous dites qu'il n'avait aucun projet polémique. Aucun illustrateur n'a accepté de travailler pour
ce livre. Il voulait faire une espèce de Bible illustrée, comme il en existe.
Un Coran illustré,
Un Coran illustré, voilà. Et donc... il cherche un illustrateur, il n'en trouve pas. C'est un écrivain plutôt très à gauche. Il publie un article dans le journal de gauche danois en disant « Mais c'est pas possible, comment c'est possible que je ne trouve pas de dessinateur ?» Un autre journaliste lit ça, fait et s'empare du sujet. D'autant qu'il était sensibilisé parce qu'il avait été correspondant en Russie et qu'il avait vu à quoi l'absence de liberté d'expression, la censure pouvait mener. Donc là, c'est le journaliste du Jylland Posten et Fleming Rose. Et donc, c'est là que commence l'affaire des caricatures. Il dit mais au dessinateur, mais envoyez-nous des caricatures de Mahomet pour vérifier que l'on peut encore dessiner sur cette religion.
Et l'événement qui a été oublié et que vous tenez à rappeler, c'est que au fond, ces caricatures ont fait bien peu de bruit quand elles ont publiées.
Alors absolument.
Mais qu'ensuite, il y a un énorme bidonnage.
Oui.
Un énorme bidonnage qui va changer le cours de l'histoire.
Qui va changer le cours de l'histoire. Alors moi, ce qui est étonnant, c'est que ça fait longtemps que je le plaide, mais je le plaidais dans le vide. Pour le coup, ça a été entendu à ce moment-là. C'est comme ça, il y a des moments. Et effectivement, les caricatures, le Jylland Posten publie des caricatures qui sont franchement assez anodines. Il y a une manifestation qui réunit 3000 personnes. C'est à la fin du monde.
Elles sont même publiées en Égypte.
Elles sont
Personne
publiées en Égypte pendant le mois du Ramadan. Il n'y a rien, aucune réaction. Et puis là, quelques imams danois, frères musulmans, salafistes, très frustrés de cette absence de réaction, constituent un dossier de presse qui est une falsification, une escroquerie, où ils rajoutent aux caricatures de publiées de fausses caricatures qu'ils ont été chercher sur des sites d'hystériques américains. Et ils font le tour des capitales arabes avec ces caricatures.
Violemment outrageuses.
Absolument. Et alors là, le monde s'embrase. Et donc c'est sur le fondement d'une escroquerie, d'une véritable escroquerie, que cette affaire a commencé. Les véritables blasphémateurs dans cette histoire, ce sont les imams danois. Mmh. Dont un s'est d'ailleurs repenti ensuite et parti vivre au Groenland en dénonçant dans un livre cette supercherie.
Oui. Ensuite, vous racontez, Richard Malka, comment le monde s'est embrasé, comment il y a eu le procès des caricatures, comment ce procès a été gagné, puis regagné encore, et comment, petit à petit, quelque chose a changé, quelque chose s'est dégradé.
Mais ça, vous savez, pour moi, ça reste quelque chose de vraiment, c'est étrange de l'avoir vécu de l'intérieur. Parce que moi, en fait, depuis 1992, je plaide les mêmes dossiers. Juridiquement, la configuration est exactement la même, sauf que pendant 10 ans, c'était avec les intégristes catholiques, les associations très proches du Front National, la Griffe et autres. Et puis après, c'est devenu des associations de tendance, défendant l'islam. Mais moi, je plaide la même chose. Et ce qui est incroyable pour nous, et on s'est pas aperçu de ça, vraiment, on est passé à côté, c'est que nous, on a eu l'impression de faire exactement la même chose tout le temps. Sauf que la perception de l'extérieur a complètement changé quand on est passé des chrétiens aux musulmans. C'est-à-dire que quand c'était des chrétiens qui nous attaquaient, tout le monde était avec nous, et tout le monde nous trouvait sympathiques et drôles et courageux. Et quand on faisait des dessins sur l'islam, parce que comme toute religion, il faut pouvoir la caricaturer, c'est la manière pour qu'une religion ne se transforme pas en dogme, et c'est la manière de dénoncer les fanatismes, là, tout d'un coup, on devenait islamophobe. Mmh. Et on n'a pas compris, en fait.
On réécoute Dominique de Villepin en février 2006. Il est Premier ministre à ce moment-là.
Nous sommes attachés à l'exigence de liberté, de démocratie, qui est à la base, bien sûr, de ce qui fonde notre pays, mais aussi à l'exigence de respect. Et c'est pour cela que nous souhaitons concilier les deux et éviter, bien sûr, tout ce qui peut blesser inutilement, et en particulier dans le domaine des convictions religieuses, toutes les convictions religieuses.
Et il va naître là, Richard Malka, l'idée très particulière d'un droit, un droit bien réel, un droit inscrit dans la Constitution, un droit dont il ne faudrait pas se servir.
C'est ça. Enfin, quand je réécoute ça, c'est effectivement le début de l'histoire. En fait, c'est inconciliable. Et c'est pas possible. Ce que dit Dominique de Villepin, je peux comprendre pourquoi il le dit. Puis il le dit à une époque où c'était difficile d'imaginer la suite. D'autres sont plus coupables d'avoir continué à proférer ce discours-là. Mais en fait, c'est inconciliable. Soit on dit qu'on peut critiquer et se moquer des religions comme on veut, mais donc ce cas-là, on peut pas en même temps demander le respect des religions. C'est pas demander le respect des religions, ça veut dire abandonner le droit au blasphème.
Alors ce que j'aimerais,
faut l'assumer. Et ça change tout.
Et ce que j'aimerais comprendre, moi, c'est la troisième partie de votre plaidoirie qui, moi, en profane, m'a beaucoup surprise. Donc j'aimerais que vous expliquiez comment vous procédez. Je vous fais écouter Patrick Klugman, qui était avocat des parties civiles à la sortie.
On devait rappeler qu'on n'assiste pas un terroriste impunément. Je l'ai rappelé, je l'ai plaidé. On accuse le bourreau. Mais finalement, le pire, c'est d'être son valet. Et ceux qui ont aidé Koulibaly ne pouvaient pas méconnaître ce qu'ils voulaient faire, pourquoi ils voulaient le faire et ceux qui voulaient tuer.
Ce qui m'a étonné, Richard Malka, dans votre plaidoirie à vous, c'est que vous êtes face à 14 accusés qui sont dans le box. 14 mecs qui encourent perpète. D'ailleurs, certains vont prendre perpète.
30 ans.
Et vous ne les désignez pas, vous ne parlez pas d'eux, vous ne les nommez pas, vous ne dites rien d'eux. Mmh. Et pourtant, vous déroulez une longue liste de personnalités dont vous donnez les noms, le contexte, le parcours. Il y a Chirac, il y a Villepin, il y a Pascal Clément, il y a Douste Blasi, il y a Le Pen, il y a Renaud de Dindieu de Vabre qui a été ministre de la Culture et de la Communication, il y a Elisabeth Guigou, il y a Marielle de Sarnez, il y a Rokhaya Diallo, il y a Daniel Cohn-Bendit, il y a Rachida Dati, etc., etc.
Oui, j'ai été œcuménique.
Oui, vous avez pris autant à droite qu'à gauche, c'est ça. Quel est le rôle de la partie civile ?
Non, mais là, on en revient à votre question de départ, qui est complètement légitime, parce que moi, je me suis posé cette question pendant des semaines et des semaines et des semaines.
Oui.
Mais effectivement, en fait, avant même le procès, dans une interview au Point, j'avais déclaré que les accusés ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'était pourquoi on en était arrivé là.
Et pourtant, ce sont eux qui sont jugés.
Effectivement, la cour d'assises était là pour les juger eux. C'était pas une plaidoirie de la 17e chambre. Et c'est pour ça que je fais une introduction dans ma plaidoirie, pour dire à la Cour, mais si on ne se limite qu'à juger ces personnes qui, moi, ne m'intéressaient pas beaucoup, alors on passe à côté de ce procès. Ce procès, il est plus que ça. Il a une portée symbolique, parce que le crime lui-même avait une portée symbolique, et que donc il faut répondre à cette portée symbolique-là. Et répondre à cette portée symbolique-là, eh ben, c'est s'intéresser aux idées. Et si il n'y avait pas eu un volet politique à ce procès, j'aurais eu l'impression, moi, et d'autres du côté de Charlie Hebdo, qu'on serait passé aussi à côté de quelque chose.
C'est ça.
C'est l'occasion de rappeler pourquoi ils sont morts, en fait. Ben, ils sont morts pour ce merveilleux droit qui est notre liberté d'expression et ce droit d'emmerder Dieu. Et j'ai vraiment tenu à appeler ce livre comme ça.
Oui, oui, oui. Et le titre est très réussi. Mais c'est vrai que quand on connaît pas forcément bien les mécaniques d'une cour d'assises, on lit ça et on se dit, voilà un avocat de la défense, un avocat de la partie civile qui devient quelque part procureur, c'est-à-dire qui désigne de d'autres coupables.
Ah ben, j'ai fait ce que parfois font les avocats, mais c'est compliqué, mais c'est aussi dû à ma position particulière dans ce procès. J'ai pris ce procès, je l'ai décalé, et j'en ai fait ce que je croyais devoir faire pour qu'il soit au plus juste.
Avec 1880, que vous revenez frapper au cœur de votre plaidoirie.
Oui, parce que les mêmes débats avaient eu lieu en 1881. Donc le moment de la grande loi sur la presse qui est toujours applicable aujourd'hui. Et en fait, quand Clémenceau défend cette loi à l'Assemblée nationale, l'Église catholique lui dit « Non mais il faut rétablir votre liberté d'expression, c'est super, mais il faut un délit d'outrage à la religion, parce que sinon ça marche pas du tout. » Et Clémenceau leur répond « Mais Dieu peut bien se défendre tout seul, il a pas besoin de l'Assemblée nationale. » On avait exactement les mêmes débats qu'aujourd'hui.
Et ce qu'on a probablement oublié, c'est que c'est un des moments vraiment, mais vraiment, c'est un des socles de la France d'aujourd'hui, le débat sur la loi de 1880, parce qu'il va être enflammé, il va durer des mois et des mois, il y aura Eugène Pelletan, il y aura tout le monde à la tribune, et que de ce délit d'outrage, de ce blasphème, va naître la question aussi du crime de lèse-majesté. En fait, le droit d'emmerder Dieu, c'est le droit d'emmerder tous les puissants.
Mais exactement, exactement. C'est le droit d'emmerder tous les dogmes. Et il change au fur et à mesure des époques. Mais ce droit-là, il reste. Le droit d'interroger toutes les croyances, toutes les idées. Que ce soit le communisme, il s'est aussi posé avec le procès Kravchenko. C'est le socle de notre échange démocratique, de notre capacité à ne pas tomber dans les intégrismes, dans les fanatismes, dans les idolâtries. C'est ce qui permet la nuance, la complexité. Et aujourd'hui encore, on en a besoin.
Merci maître. Richard Malka, Le droit d'emmerder Dieu, est paru chez Grasset. Merci d'être venu dans l'Instant M. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebelli.
Bonjour Sonia De Villers. Je ne sais pas si ce sujet vous concerne. Comment ne pas se disputer pendant les fêtes? Et ben voilà, écoutez l'émission et on va vous donner toutes les réponses.
Mais le droit de se disputer à Noël.
On a le droit de se disputer, mais à condition.
Ça fait la vie, la politique, la démocratie, ça fait les familles. Ça soude aussi.
À condition que ça ressemble pas à Festen quand même. N'hésitez pas à nous appeler, à témoigner au 01 45 24 7000.